Et nous, on va rester dans une thématique très proche avec un homme qui a été décrit par le site Bloomberg comme étant, je cite, l'homme le plus dangereux de la vie politique américaine. Rien que ça, Christelle.
Oui, rien que ça. Cet homme, c'est Steve Bannon. C'est la bête noire d'une bonne partie des médias américains. Il vient d'être nommé chef de la stratégie au sein de la nouvelle administration Trump. Alors, Renaud Malik, Steve Bannon dirige le site d'information d'ultra-droite Breitbart News. Et sa nomination symbolise, au fond, la montée en puissance des médias dits de réinformation.
Réinformer, dire tout haut ce que les médias traditionnels n'osent pas dire, donner une voix à ces gens ordinaires méprisés soi-disant par l'élite new-yorkaise, voilà en quelques mots la mission que s'est donnée le site créé par Andrew Breitbart en 2007. Depuis 2012, c'est Steve Bannon qui est aux commandes de la plateforme. Breitbart News, répète-t-il, c'est un site d'information et non d'opinion, même si Steve Bannon admet être fidèle à une ligne populiste et nationaliste, très opposée notamment au multiculturalisme et à l'immigration.
Alors, ce qui frappe Renaud, c'est l'audience énorme de ce site. On parle de 17 millions de visiteurs uniques par mois.
Oui, et le trafic est en perpétuel essor. Il a augmenté de 120% depuis 2014. Ce qui est spectaculaire surtout, c'est de voir à quel point ces contenus sont partagés sur les réseaux sociaux. Durant les mois de mai et juin 2016, par exemple, c'est Breitbart qui a été le site politique le plus performant sur Facebook, avec des articles partagés, commentés ou likés 8 millions de fois. 8 millions de fois, c'est deux fois plus que les contenus de CNN.
Et puis c'est un site qui a aussi beaucoup d'ambition. Renaud, il veut maintenant partir à la conquête de l'Europe.
Oui, il a déjà une antenne au Royaume-Uni avec une dizaine de journalistes sur place et il prévoit effectivement de s'implanter bientôt en France et en Allemagne. L'enjeu, c'est de pouvoir peser sur les prochaines élections qui vont s'y tenir en soutien aux formations de la droite nationaliste. D'ailleurs, Steve Bannon n'a pas caché son admiration pour Marion Maréchal Le Pen, the new rising star, la nouvelle étoile montante selon lui.
Mais Renaud, si Breitbart s'implante dans le monde francophone, ce ne sera de loin pas le seul site dédié à la réinformation.
C'est sûr, il y aura de la concurrence. Ce genre de sites ne manque pas. On les a d'ailleurs vus se multiplier ces dernières années. On peut citer pêle-mêle l'agence de presse russe Sputnik, le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, ou encore, plus proche de nous, lesobservateurs.ch et Antipresse.
Merci Renaud Malik. Alors la montée en puissance des médias dits de réinformation, on va en discuter tout de suite avec deux invités, Slobodan Despot et Romain Huret. Bonsoir.
Bonsoir.
Slobodan Despot, vous êtes écrivain, éditeur, vous avez lancé le site Antipresse il y a moins d'un an. Et Romain Huret, historien spécialiste des États-Unis, vous avez notamment publié « Les conservateurs américains se mobilisent, l'autre culture contestataire » paru aux éditions Autrement. Alors Romain Huret, je vais commencer avec vous. Steve Bannon, hein, c'est cette ce personnage cité comme étant l'homme le plus dangereux de la vie politique américaine, qui est nommé chef de la stratégie au sein de l'administration de Donald Trump. Est-ce que cette nomination-là, c'est le symbole, la nomination symbole d'une influence croissante de ces médias de réinformation de droite radicale aux États-Unis ?
Oui, c'est le symbole de la montée en puissance de ce conservatisme-là, de cette aile la plus radicale du conservatisme. Beaucoup douté de l'adhésion des conservateurs à Donald Trump au départ. Hein. Je rappelle qu'il y a un an, il y a encore six mois, on avait des doutes sur la manière dont les conservateurs allaient recevoir la candidature de Donald Trump. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus aucun doute.
Et ils ont joué un rôle, on les soupçonne hein, d'avoir joué un rôle dans cette campagne, dans le succès de Donald Trump, un rôle qui n'a pas forcément été senti tout au long de la campagne. Selon vous, ils ont joué un rôle dans l'élection de Donald Trump ?
Tout à fait, ils ont joué un rôle très important et à tel point que certaines élites conservatrices traditionnelles d'une presse qui date des années 70-80 s'est sentie un petit peu marginalisée et a écrit des éditoriaux très violents contre Donald Trump. Mais on voit bien que Donald Trump avait en partie anticipé cela et avait eu recours à d'autres médias, notamment les médias électroniques, pour faire campagne et pour rallier à sa cause les conservateurs.
Slobodan Despot, au fond, c'est un succès. C'est un site de réinformation qui joue un rôle grandissant dans la politique. Finalement, ça vous atteignait à peu près le même statut que la presse dite traditionnelle.
Alors, je dois quand même préciser une chose, c'est que notre lettre, l'Antipresse, c'est pas un site, c'est une lettre d'information. Il n'y a rien sur l'internet, enfin très peu de choses sur l'internet. Et c'est un choix délibéré, c'est-à-dire que pour recevoir nos informations, il faut être abonné à la lettre qui paraît le dimanche matin.
Vous êtes d'accord quand même problème avec ce concept de réinformation, c'est un terme qui est intéressant.
Enfin, je suis d'accord qu'il existe. C'est pas ce que je pratique. Moi, la réinformation, à mes yeux, c'est la copie en miroir de l'information. C'est-à-dire, nous allons faire des agences de presse, nous allons donner une information qui n'est pas celle qui passe dans les médias, mais nous n'allons pas forcément nous interroger sur les mécanismes d'information. Nous, ce qu'on fait, c'est nous interrogerons sur les mécanismes psychologiques, philosophiques, sociologiques de l'information. C'est pas tout à fait la même chose. Mais effectivement, manifestement, il y a une lacune de l'information médiatique qui est démontrée de manière éclatante par, disons, le naufrage des médias internationaux sur l'affaire Trump, et qui ouvre des interstices où toutes sortes de gens s'engouffrent, d'ailleurs de droite comme de gauche.
Vous partagez cette analyse, Slobodan Despot, puis on viendra ensuite à vous, Romain Huret, sur le fait que ces médias de réinformation ont occupé un espace aux États-Unis laissé vacant aussi par les grandes restructurations médiatiques. Et finalement, on le dit, il y a des chiffres qui sont assez forts. 20 000 journalistes ont perdu leur job sur ces 20 dernières années aux États-Unis. Et c'est tous des espaces éditoriaux qui sont apparus sur un territoire avec un réel impact aussi sur la formation de l'opinion.
Ah ben, ça, je suis d'accord avec l'explication socio-économique, disons, mais il y a aussi une explication qui est plus d'ordre idéologique, d'ordre des contenus, c'est-à-dire que de plus en plus, les médias fonctionnent de manière autoréférentielle, c'est-à-dire comme un club de gens qui pensent dans la bonne direction.
Et c'est pas le cas dans les sites de réinformation d'être autoréférentiel aussi, c'est aussi un club finalement.
Écoutez, d'abord, j'aurais voulu faire finir ma phrase, mais en général, quand je parle de ça, j'y arrive jamais. je n'y arrive jamais.
La tentation était grande.
Signe qu'il y a un problème.
Allez-y, on promet de pas vous interrompre sur les 20 prochaines secondes.
Je pense effectivement que la réinformation fonctionne en miroir de l'information, donc il y a probablement quelque chose d'autoréférentiel, mais il y a aussi un problème, disons, de ce que disait l'éditorialiste du temps, n'est-ce pas? Ah ben les journalistes fonctionnent dans le monde de l'élite, nous sommes l'élite. Parfois on devrait peut-être une fois ou l'autre s'intéresser à la périphérie, je cite l'entre guillemets, à la périphérie de ce que nous sommes, pour voir quelle est la température. Ça, c'est pas une manière d'informer. Ils sont pas là pour se regarder le nombril, ils sont là pour informer.
Romain Huret, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que pour les États-Unis, il faut quand même relativiser l'idée d'un entre-soi journalistique. Hein. Ça touche la très grande presse, après les grandes chaînes de télévision, mais il reste une presse régionale qui est très importante aux États-Unis. Hein. Moi qui voyage beaucoup dans ce pays, on a des informations régionales, on a des journalistes qui sont près du terrain. Ce qui est vrai, c'est qu'on reproche beaucoup à la presse traditionnelle, la presse papier, hein, les grands médias papier et les grandes chaînes de télévision traditionnelles, d'être autoréférentielles, pour reprendre ce qui a été dit. Ceci étant dit, j'insisterai quand même sur deux choses pour les États-Unis. La première chose, c'est que l'information est dérégulée aux États-Unis, y compris en temps de campagne, et on ne peut pas comprendre ce qui se joue aux États-Unis sans avoir cela en tête. En France, par exemple, une telle situation est impossible parce qu'en temps de campagne, le temps de parole des candidats est dérégulé. Donc les médias traditionnels et plus modernes ne pourraient pas jouer de la même manière. Et on sait bien que Facebook et ces médias, ces nouveaux réseaux sociaux jouent un rôle problématique.
Donc ça, c'est la première chose. Romain Huret, ce que vous nous dites avec cette dérégulation des médias américains, c'est finalement le fait que les médias ont une couleur politique tout à fait claire et identifiée.
Absolument. Dans les années 80, la dérégulation est mise en place et Fox News va être le premier grand média qui va prendre fait et cause pour les conservateurs et qui a une information qui est à sens unique. Il y a très peu de débats équilibrés en termes de temps de parole et d'idées sur Fox News. Et il ne se cache pas du tout de faire campagne pour les candidats conservateurs.
Slobodan Despot, c'est vrai qu'on voit pendant la campagne présidentielle en France, c'est très régulé pour le coup. Hein. Les temps de parole sont comptés. On doit donner la parole à tous les candidats avec des conditions très, très marquées. Est-ce que finalement, c'est pas ça la réponse pour que tous les courants de pensée aient une place dans le débat et qu'on évite ces débats sur les choix et dire que les journaux ne donnent pas la parole ou ne donnent pas certaines visions de la société?
Vous savez, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit quantifiable. En plus, en France, et c'est une règle avec des exceptions, comme toujours en France. Par exemple, l'Union Populaire Républicaine, qui est un parti qui a des idées très intéressantes, anti-européennes évidemment, et anti-OTAN, n'a pas eu le temps de parole auquel il aurait eu droit. On en parle même pas. Donc ça, c'est assez hypocrite. Mais ce qui est un fait, c'est que quand vous donnez la parole aux gens et puis que vous entourez leur petite tranche de saucisson de paroles, de commentaires qui les dénigrent, qui disent de toute façon oh là là, ceux-là, bon, il faut bien qu'on les laisse parler, mais enfin, vous imaginez ce que c'est pour des gens. Eh ben, c'est pas la même chose que lorsque vous donnez la parole avec tout le respect dû, parce que c'est une femme, parce que ça, elle représente la bonne pensée à une femme comme Madame Clinton, qui est empêtrée dans des scandales de corruption.
Mais c'est quand même assez paradoxal, quelque part, hein, Slobodan Despot. Permettez-moi d'interrompre une nouvelle fois cette bonne guerre. Mais c'est vrai qu'il y a des chiffres quand même qui étaient assez impressionnants dans cette campagne, notamment américaine. Oui. C'est le fait, je me rappelle plus, c'était le printemps passé, on comparait les budgets investis en marketing politique, par exemple, par un candidat comme Jeb Bush et puis Donald Trump. Puis on constatait que quand Bush avait déjà dépensé 130 millions, Trump en était à 4 millions dépensés. Et pourquoi, en fait, c'est parce que tous les médias se l'arrachaient. Tout le monde voulait l'entendre, tout le monde voulait l'accueillir.
Pour le dénigrer, d'ailleurs.
Pas forcément, en tout cas pour entendre. Publicité. Et on avait l'impression quand même que finalement, il n'y avait aucun candidat d'entendre parler autant que Donald Trump.
Ben oui, parce que tout simplement, c'est dans les contenus que ça se passe. Vous pouvez faire des campagnes avec zéro franc. Ici en Suisse, on en a vu quelques-unes qui étaient fort réussies, parce que vous aviez des idées, des contenus qui étaient totalement à l'opposé de ce que disaient les médias. Et je pense, et je le répète, que la campagne, la battue des médias internationaux et américains contre Donald Trump lui a épargné en tout cas 1 milliard de frais de publicité.
Romain Huret, on entend des mots assez forts, hein, naufrage, battu contre Donald Trump. Il y a depuis une semaine, hein, depuis ce résultat qui a surpris, tous les sondages n'arrivaient pas à la conclusion que Donald Trump allait arriver. Il y a une sorte d'autoflagellation ou d'autocritique. Certains journaux ont publié des autocritiques dans des éditos critiques sur leur travail. Est-ce que la presse doit faire justement cette autocritique? Jusqu'où doit-elle aller dans cette autocritique à faire à l'avenir?
Pour avoir parlé avec beaucoup de journalistes depuis une semaine en France et aux États-Unis, je crois que c'est extrêmement difficile d'aborder un phénomène comme Trump et d'aborder une question, si on prend la question du mur, ou l'expulsion de 11 millions de personnes. Le traitement de l'information est délicat, hein, parce que soit vous êtes dans la critique, vous avez ce discours de mépris disant que c'est impossible, etc. Soit vous essayez d'intégrer cela à une problématique plus longue, plus enracinée, etc. Et ça prend également du temps, et on sait très bien que le temps chez les journalistes, c'est compté. Ouais. Les formats sont très courts, et donc on a beaucoup de mal, et ils le reconnaissent, hein, ils ont fait leur autocritique à cause de ça. J'ajouterai une chose, plus ils critiquent Trump, plus ils l'ont aidé. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte aussi de cela, et on a le même phénomène en France avec Marine Le Pen. C'est-à-dire que plus on a un discours très critique, plus on l'exclut de l'establishment, de l'entre-soi, et donc plus on facilite de l'autre côté, hein, ce discours-là, tendant à dire qu'ils sont à l'écart de l'establishment, à l'écart de la pensée unique, etc., etc. Donc je pense qu'au-delà de la critique facile sur les journalistes qui font pas leur travail, je pense que c'est un problème extrêmement délicat, ils en sont conscients, et arriver à trouver la bonne distance et la bonne mesure est compliqué en raison des contraintes de temps et des contraintes médiatiques qui sont fortes.
Romain Huret, la prochaine grande campagne présidentielle qui nous attend, c'est en France. Renaud Malik nous le disait tout à l'heure, le site Breitbart News entend s'installer en Europe, prévoit de s'exporter en Europe. Avec quelles conséquences, selon vous, sur cette future campagne? Et Slobodan Despot, vous pourrez répondre après.
Oui, oui.
Tout à l'heure, je vous amusais.
Ah oui.
Là, je peux vous laisser répondre, hein, si vous voulez. Je ne vais pas vous couper la parole.
Hein. J'ai envie de vous entendre les deux.
Sur la France, il y a eu un livre récemment qui a été publié sur la fameuse fachosphère. Donc je pense que ces sites, on n'attend pas les Américains en quelque sorte en France pour avoir ce type de site. Et le débat est déjà ouvert en France sur les réseaux sociaux, qui pose un problème au-delà d'un problème de débat politique, qui pose un problème très simple en France, qui est le problème de la régulation. Puisque comment contrôler le temps de parole et la prise de parole sur les réseaux sociaux, c'est un problème délicat et on va être confronté à ce problème en France au printemps.
Slobodan Despot, Breitbart News à la sauce européenne. Pourquoi ça vous fait rire?
Mais parce que pourquoi ça me fait rire, c'est que là on vient d'aller au cœur du problème. Vous ne pouvez pas réguler les temps de parole sur l'internet. C'est un impensable. Vous ne pouvez pas. Je veux dire, les gens vont s'expatrier. La mondialisation, elle fonctionne à plein. Il y a plus de frontières sur l'internet. Sputnik est devenu par exemple un média extrêmement influent en France, en étant un média russe avec des journalistes qui sont francophones. Un point, c'est tout. Donc là, les apôtres de la mondialisation à tout craint vont être pris à leur propre jeu. Et c'est vrai. Il est vrai aussi que en France, on n'attend pas, on est bien servi. Il y a Atlantico, qui est une exportation américaine. Il y a Égalité et Réconciliation, qui est à mon avis le site, si je me trompe pas, le plus visité en France. Il y a aussi des exportations américaines antérieures dont on ne parle pas, comme Slate ou comme Huffington Post, qui sont déjà des calcomanies, n'est-ce pas, mais dans l'autre courant.
De sites américains.
De sites américains. Donc c'est tout à fait logique que Monsieur Bannon, qui est d'abord un homme d'affaires, faut pas l'oublier, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans les investissements médiatiques, c'est avant d'être un homme engagé politiquement, ou en même temps, mais en tout cas il a fait une fortune là-dedans, il fait des études de marché, il fonctionne comme ça, et les marchés sont ouverts.
Les marchés sont ouverts et effectivement une multiplicité de sites à suivre cette prochaine campagne présidentielle en France. Merci à tous les deux, Slobodan Despot, écrivain, éditeur, et vous avez lancé la lettre anti-presse il y a moins d'un an, et Romain Huret, historien, spécialiste des États-Unis. Je rappelle votre livre « Les conservateurs américains se mobilisent, l'autre culture contestataire ». Une belle soirée à tous les deux.
Merci.
Merci.